Bonjour à toutes et à tous. Comme recteur adjoint de l'Université Galatasaray, mais peut-être aussi comme ingénieur longtemps praticien des techniques d'intelligence artificielle, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Deprat dans le cadre des ateliers recherche pluridisciplinaires qui se tiennent désormais en ligne. Ces ateliers ont vocation à inviter des chercheurs débutants ou confirmés, français ou turcs, ou d'autres nationalités, en provenance de l'Université Galatasaray, d'université française ou francophone, ou d'ailleurs. Les recherches présentées couvrent toutes les spécialités disciplinaires présentes à l'université, mais peuvent s'en écarter. Elles peuvent aussi traverser plusieurs disciplines. La langue de travail est le français, mais pourrait être le turc, l'anglais, voire une autre langue, si besoin. Ces ateliers sont donc ouverts, mais aussi informels et, nous l'espérons, conviviaux. Cependant, diverses exploitations des interventions sont menées en parallèle dans le but de construire des projets interdisciplinaires. C'est ainsi qu'en fin de semaine dernière, lorsque nous avons accueilli deux spécialistes de français langue étrangère, Christelle Hope et Jean-Paul Narcicombe, d'autres que moi, depuis d'autres lieux opérationnels de l'université, avaient des vues, par exemple sur la préparation d'une chaire d'excellence portant sur le français langue étrangère, mais aussi sur la structuration de la faculté des sciences et des lettres, une des cinq facultés de l'université, qui abrite notamment le département de littérature comparée et le département de mathématiques, pour travailler la possibilité de projets transverses de type humanité numérique. Aujourd'hui, l'intervention de Nathalie Deprat servira également plusieurs logiques. Cette intervention inaugure la deuxième chaire d'excellence de l'Université Galatasaray, dont Nathalie Deprat est la professeure titulaire, qui porte sur le thème « Phénoménologie de l'intelligence artificielle à l'heure des réseaux de neurones convolutifs et des expériences utilisateurs de systèmes numériques massivement connectés ». Il s'agit ici, pour Nathalie Deprat, de se présenter et de poser le contexte et les attendus de la chaire qui commence. Cette intervention initialise le processus de rassemblement des compétences multidisciplinaires qui seront fédérées par la chaire, portée par le département de philosophie de GSU. Le département de philosophie étant lui aussi abrité par la faculté de lettres et sciences, le professeur Soussou Moutanabe poursuivra ses investigations pour créer des relations transdisciplinaires et des projets pilotes au sein de cette faculté. Dans un instant, je laisserai la parole à Türker Armaner, s'il réussit à nous rejoindre, chef du département de philosophie de l'université, qui déclarera ouverte la chaire d'excellence, puis bien entendu, nous entendrons Nathalie Deprat. Enfin, là encore, s'il parvient à nous rejoindre, nous entendrons Philippe Alcaraz, qui est conseiller du commerce extérieur de la France et PDG de la société Airtice, qui fournit des équipements Wi-Fi à travers le monde entier, société qui porte la chaire d'excellence aux côtés de l'ambassade de France. Ensuite, vous pourrez débattre avec les intervenants sous la houlette d'Erinç Aslaboğa, d'Umut Özüzen et de Soussou Moutanabe qui ont participé à l'élaboration de cette chaire. Mais permettez-moi de dire encore un mot, cette fois sur le thème scientifique de la chaire d'excellence qui rapproche petit 1, la phénoménologie, petit 2, l'intelligence artificielle et enfin les expériences utilisateurs de systèmes numériques massivement connectés. Premièrement, qu'est-ce que la phénoménologie? La phénoménologie est un jeu d'enfant, un jeu de type vertige si l'on en croit la classification en quatre catégories proposée par Roger Caillois dans son livre « Les jeux et les hommes » publié en 1958. Un jeu d'enfant, disais-je, à condition bien sûr de restituer au jeu toute sa puissance créative et d'élargir l'enfance à la fourchette 7-77 ans. Car il faut pouvoir y faire entrer par exemple un René Descartes dans son calorifère en Hollande au milieu du XVIIe siècle, excité comme un enfant à la découverte de son fameux cogito. Cette pensée, je pense donc j'existe, est la première et la plus certaine qui se présente à celui qui conduit ses pensées par ordre, écrira Descartes dans Les Principes de la philosophie en 1644. le primat du phénomène de la pensée sur ces objets, pourtant inséparables, c'est une intuition d'enfant proprement vertigineuse. Selon Kaiwa, encore, un jeu conjoint toujours une intuition donatrice originaire, qu'il appelle Pédia, qui est une jubilation première propre au jeu, qui sera le principe directeur du développement ludique et du pôle rationnel et réglé du jeu, c'est le ludus. Pédia versus ludus. La Pédia, l'intuition donatrice de la phénoménologie, la voici. La pensée n'est pas un supplément d'âme qui viendrait caresser et colorer un monde déjà là de son pinceau d'aquarelliste, le laissant fondamentalement intact, passé la première pluie. Au contraire, la pensée constitue le monde comme monde et constitue le penseur dans le même mouvement, par esquisse. La relation intentionnelle ne cesse de constituer ce qui relie. Ici, ne nous limitons pas à une pensée rationnelle. La contemplation est tout autant concernée, qu'on pense à Lamartine au bord du lac ou de la montagne, voire le ressenti corporel. Ma main droite touche mon bras gauche. Cette description est-elle adéquate? Ne devrais-je pas plutôt dire qu'une sensation de toucher confère de la présence immédiatement à ma main touchant et touchée et à mon bras touchant et touché? Mieux vaudrait donc dès lors parler de conscience sans aucune connotation psychanalytique ou psychologique. Nous vivons et éprouvons un flux de conscience dense, toujours pointant un complément d'objet direct, et c'est à partir de cette origine enfantine qu'il faudrait pouvoir philosopher. Cogito ergo sum ne dit rien d'autre. Philosopher sur cette base, inventer la phénoménologie comme science, c'est le ludus de la phénoménologie moderne, c'est l'affaire de Husserl, qui est, je le rappelle, assistant du mathématicien Weierstrass, comme ancien élève des classes préparatoires, on se souvient du théorème de Bolzano-Weierstrass, qui donne une caractéristique séquentielle des espaces compacts en topologie. Ainsi, de l'invitation à suspendre le monde, déjà là, pour le reconstituer, et à considérer comme originaire ma propre conscience, qui certes est toujours déjà conscience de quelque chose, mais qui le constitue par là. Pour bien faire, il faut pouvoir faire vœu de pauvreté en matière de connaissances, mettre entre parenthèses le monde, le suspendre pour mieux le ressaisir dans sa genèse. Les phénoménologues parlent avec Husserl d'époque. C'est ici que le jeu phénoménologie se fait ludus, les phénoménologues ayant développé des règles et des méthodes adéquates au noyau Pédia. Les phénoménologies seront régionales, traitant de secteurs saisis en conscience, tels la vie intellectuelle, qu'on pense à Heidegger ou à Fink, avec son très beau jeu comme symbole du monde, la vie et la religion, Lévinas, Ricoeur, Michel Henry, le temps, Gadamer, Jean Toussaint Descenti, l'intersubjectivité et la vie en société, Sartre, Derrida, Bernard Stiegler plus récemment, la perception et les sciences, Merleau-Ponty, Simondon, Renaud Barbara, Pierre Vermersch, Nathalie m'expliquait qu'il nous avait quittés il y a peu de temps, je ne le savais pas, l'espace, Jean Petitot, Augustin Berg. La phénoménologie fut allemande, très tôt française. Vous êtes, chère Nathalie Deprat, une des représentantes majeures de ce courant philosophique en science, en France, pardon. Vous travaillez aux archives Husserl à Louvain-la-Neuve. On dit quelquefois que les notes de Husserl étaient prises en sténographie avec l'aide d'Edith Stein. 300 000 feuillets resteraient à dépouiller. Vous nous direz si la vérité est dans cette assertion. L'équation vertigineuse de la phénoménologie, une pédia radicale et universelle, un ludus régional et monacal. Intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, l'IA pour les intimes, est un jeu de militaires américains désireux de gagner la guerre froide. Ce jeu, contrairement à la phénoménologie, n'est pas né d'une intuition explicite, mais d'un projet ludique. La théorie des jeux y joue d'ailleurs un rôle très important. L'IA vise explicitement une ingénierie de l'interprétation du renseignement ennemi, au sens où intelligence, comme dans CIA, Central Intelligence Agency, signifie renseignement en anglais, et où le programme IA investit une philosophie utilitaire qui se défie de la métaphysique, comme d'ailleurs de la lecture des Grecs anciens comme propédeutique. L'IA est financée par le ministère de la Défense, le DOD et la DARPA américaine. C'est un projet pragmatique, inspiré par la philosophie analytique qui prévaut aux USA au milieu du XXe, elle-même inspirée du positivisme logique, le cercle de Vienne, celui-là même qui a conduit Wittgenstein et Russell, le co-auteur avec Whitehead des Principia Mathematica, à se quereller à Cambridge, tisonnier en main. L'intuition donatrice originaire de l'intelligence artificielle est impensée, même si Turing, un contributeur essentiel avec la machine abstraite qui préfigure l'ordinateur matériel, imagine un test célèbre qui est empreint de maïeutique socratique. L'IA est clairement un jeu de type imitation, au sens de Kaiwa, et de la mimicrie mimesis. Les projets IA sont très ambitieux et produisent pêle-mêle l'informatique, le traitement et la synthèse du langage naturel que nous connaissons, de la parole, les chatbots avec Elisa, le premier chatbot de l'histoire, le traitement d'image, la vision, l'apprentissage automatique, le traitement et synthèse du son, du geste, les langages de programmation, Internet, Internet des objets, les humanités numériques. Deux approches paradigmes sont nativement concurrents, dès le départ donc, de l'intelligence artificielle. Une approche symbolique, représentation des connaissances et du raisonnement, avec des réseaux sémantiques, des ontologies, qui ne font que prolonger finalement les thésaurus et autres taxinomies, inférence logique au sens de la logique classique. Bref, une approche qui représente le monde et qui s'appuie sur une épistémologie classique de type kuhnienne, à la Thomas Kuhn, avec aucune espèce de révision épistémologique. Mais également ce qu'on appelle le connexionnisme, une théorie alternative au computationnalisme, faite de logique numérique, qui cherche à propager des pondérations à travers des grilles de filtrage. C'est le fameux perceptron du professeur Rosenblatt, et ce sont les réseaux de neurones qui sont natives de l'intelligence artificielle, mais une approche donc alternative. D'une part, la disponibilité d'océans de données, les big data, engage à décliner les descriptions symboliques au plus près du signal. Avec le temps, on a pu mettre en œuvre des représentations et des symboles de plus en plus proches du signal, de plus en plus intimes avec la palpitation du réel. D'autre part, et beaucoup plus récemment, les algorithmes de réseau de neurones sont devenus plus performants, multicouches ils l'étaient déjà, mais sont devenus convolutifs, plus rapides grâce aux performances accrues des supports machines, d'où la naissance de l'apprentissage profond, deep learning en anglais, essentiellement prédictif, qui signe une renaissance spectaculaire de l'intelligence artificielle. Récemment même, en utilisant ces techniques d'apprentissage profond, on a mis en compétition dans les Generative Adversary Networks, les fameux GAN, une rivalité entre deux réseaux de neurones, l'un pour leurrer, l'autre pour apprendre à déjouer les leurs, un procédé, vous l'avez reconnu, très turingien, finalement, très proche du test d'imitation de Turing, et qui fait fureur et qui donne d'excellents résultats. L'IA n'a par construction rien de particulier à attendre de la phénoménologie, si ce n'est « montre à quoi tu peux servir ». C'est la logique des pragmatiques américains. Mais précisément parce que l'équipe projet intelligence artificielle initiale se trouvait hybride, elle comprend dès l'origine des Européens, Van Neumann, Allemands, Alan Turing, Britanniques, des Américains fraîchement émigrés qui bien souvent ont fui l'Allemagne nazie, John McCarthy, Joseph Weizenbaum, Marvin Minsky, Noam Chomsky, qui est toujours mieux soigné en vie. D'autres, tels Seymour Papert, Newell, Alan, John Sowa, avec une très forte culture continentale. Et c'est ainsi que, dès l'origine d'un projet extrêmement analytique et extrêmement pragmatique, les pionniers de l'IA ont été en mesure d'accueillir des critiques largement inspirées de la phénoménologie, telle celle de Dreyfus, telle celle de Vinograd en compagnie de Flores, le ministre des Finances de Salvador Allende de l'époque, avec des critiques qui datent respectivement des années 70-80, que je connais très bien pour les avoir moi-même lues dès mes débuts de chercheur en intelligence artificielle. Il y avait donc des critiques issues de la phénoménologie qui venaient s'intriquer avec le projet initial. Ces critiques iront jusqu'à poser les bases des sciences cognitives avec Francesco Varela, Maturana et plus près de nous, des gens que vous connaissez bien, Nathalie, comme Dominique Lestel, Jean Lassègue. Vous avez vous-même travaillé avec Varela sur ce type de projet critique. Et finalement, grâce à la double culture des pionniers de l'informatique, l'intelligence artificielle, double culture qui a peut-être, hélas, en partie disparu, l'IA a travaillé à l'explicitation tardive de son versant PDIA, de son intuition originelle. Enfin, la chaire d'excellence Galatasaray se déroulera avec ERTAIS, l'ambassade de France et le département de philosophie. Philippe Alcaraz, j'espère qu'il pourra nous rejoindre, est PDG de la compagnie ERTAIS, une multinationale, qui équipe, nous disait-il récemment, 28 millions de foyers dans le monde en technologie Wi-Fi. 28 millions de personnes ou de foyers qui ont des habitudes, des langues, une éducation, une configuration sociale et un habitat différent. 15% sont des geeks, un certain nombre de pourcentages, je ne sais pas lequel, détestent absolument les nouvelles technologies. Lorsqu'un usager rencontre des difficultés avec sa connexion Internet, il contacte une hotline, interagit avec un chatbot, et c'est bien souvent le début de la fin de son contrat avec ERTAIS ou ses concurrents, parce que les choses se gâtent. Le jeu ici, qui se joue, est de type agone. C'est la troisième catégorie avancée par Kaiwa, la compétition entre multinationales. Et lorsque les joueurs sont des algorithmes, on peut craindre ce que Antoinette Rouvroy appelle la gouvernementabilité, j'ai rajouté un bi en trop, hein, la gouvernementalité algorithmique. Lorsque les algorithmes sont de type deep learning, on peut craindre même qu'une part d'aléa se glisse dans le jeu du fait de l'interprétation systématiquement causale des récurrences et des proximités. C'est le grand risque de cette gouvernementalité algorithmique, très très bien analysée par Antoinette Rouvroy et quelques autres. Philippe Alcaraz pressent nettement toutes ces questions fondamentales et veut les aborder autrement que ses compétiteurs, il veut les aborder au fond. C'est, je crois, ce qui l'a aussitôt séduit dans la perspective de créer cette chaire d'excellence en philosophie à l'Université Galatasaray. Ne pourrait-on pas mieux anticiper le besoin des utilisateurs, sachant mieux comment ils mobilisent leur connexion Internet de manière familiale, à la maison, quels sont les usages? Ne pourrait-on pas apprendre à comprendre tout cela en respectant la propriété intellectuelle des données et de ses usages? Voilà, j'ai trop parlé. Je ne sais pas si Nathalie va pouvoir nous rejoindre.
Alors, déjà, je voudrais remercier Francis Rousseau, vice-recteur à l'Université de Galatasaray, pour avoir créé, constitué la possibilité de cette chaire d'excellence. Également remercier Philippe Alcaraz d'avoir rejoint l'entreprise entre guillemets en finançant le projet de cette chaire par son entreprise à ERTAIS. De mon côté, je suis philosophe et j'enseigne à l'Université de Rouen, Normandie. Cette chaire d'excellence en philosophie, elle a pour programme de mettre la phénoménologie au service de l'intelligence artificielle et plus particulièrement de cette dernière mouture de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage profond. Vous proposer une présentation en fait de ce programme sous un format relativement ouvert et pour donner des pistes de réflexion et de recherche à l'orée de ce travail, à l'orée de ce programme de recherche.
Voilà, je le sais parce que c'est moi qui l'ai créé. On vous surveille. Le gouvernement possède un dispositif secret, une machine. Elle vous espionne jour et nuit, sans relâche. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai créé. Je l'avais conçu pour prévenir des actes de terrorisme. Mais la machine voit tout. Tous les crimes impliquant des citoyens ordinaires, tels que vous. Des crimes dont le gouvernement se désintéresse. Alors, j'ai décidé d'agir à sa place. Mais il me fallait un associé, quelqu'un capable d'intervenir sur le terrain. Traqués par les autorités, nous travaillons dans l'ombre. jamais vous ne nous trouverez. Les victimes ou criminels, si votre numéro apparaît, nous vous trouverons.
Voilà Nathalie.
Mais c'était voilà, essentiellement pour ouvrir mon propos et donner une sorte de piste de réflexion en amont de ce que je vais proposer à présent. Donc je voudrais commencer par introduire le sujet donc, que j'ai choisi pour cette présentation, donc phénoménologie et apprentissage profond, le rôle de la micro-phénoménologie dans l'expérience humaine de la reconnaissance visuelle. Donc en introduction, je voudrais commencer par évoquer un certain nombre de paradoxes de l'intelligence artificielle entre science et politique. L'intelligence artificielle qui a donné lieu à l'informatique telle que nous la connaissons au quotidien avec Internet et la pratique assez prototype, je dirais, de nos ordinateurs qui ne quittent plus l'ONU. Cette intelligence artificielle elle est aujourd'hui confrontée à travers son recours contemporain assez révolutionnaire depuis une dizaine d'années, donc ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning, à travers les réseaux de neurones qu'on nomme parfois convolutifs, elle est confrontée à un double paradoxe. Et à l'évidence, ce double paradoxe, il est en réalité inhérent au statut dominant de la science dans nos sociétés, et plus particulièrement de ce qu'on appelle l'épistocratie. Donc, c'est un terme qui a été forgé aux États-Unis il y a un certain temps déjà, à savoir le pouvoir des technologies expertes. Mais ce double paradoxe se trouve accru aussi du fait du statut particulièrement technique que revêt l'apprentissage profond, d'une part, et d'autre part également en raison de la conscience citoyenne de plus en plus aiguisée de la défense des libertés face à l'ingérence croissante des États dans nos vies privées. Alors le premier paradoxe tient à cette très grande technicité et complexité des architectures algorithmiques qui sont mobilisées par cette technologie donc, de l'apprentissage profond. Et ces algorithmes, on le sait, ils mettent à profit des quantités impressionnantes de données numériques. Ils offrent des moyens de calcul extrêmement performants en modélisant ces données à des fins d'apprentissage automatique et de prédiction. Et ils sont de l'avis même des ingénieurs s'efforce avec vaillance de présenter par exemple le deep learning en 10 minutes, on a des vidéos sur Internet, bien cette architecture algorithmique elle est extrêmement complexe, même si on dispose de plus en plus de méthodes pédagogiques d'accès. Donc face à cette très grande difficulté de vulgarisation, les applications par contraste sont extrêmement parlantes, spontanément, correspondent à des progrès stupéfiants dans les domaines de l'analyse, par exemple du signal sonore ou visuel, et notamment de la reconnaissance faciale et vocale, j'y reviendrai, ou encore du traitement automatisé du langage, de la vision par ordinateur dans le domaine de la santé pour les opérations chirurgicales. Donc le niveau de performance atteint par l'apprentissage automatisé de ces machines est inouï, et les algorithmes de deep learning dépassent de loin, à cet égard, les capacités humaines, qu'il s'agisse par exemple de la classification des images, de voitures autonomes capables de reconnaître des différents types de panneaux, de différencier des piétons par rapport à des objets, ou encore du contrôle vocal de nos smartphones, tablettes, nos téléphones. On est donc confronté à un paradoxe qui est bien connu en science, c'est celui de l'écart incompressible entre l'impossibilité d'accès ou la très grande difficulté d'accès à ces connaissances mathématiques et logiques par un grand public, même cultivé, voire venant même de chercheurs en sciences humaines non formés en mathématiques, comme c'est mon cas, et par de l'autre côté, l'expertise très sophistiquée des chercheurs en sciences et en recherche fondamentale. Avec cette conséquence que la population, dans sa très grande majorité, ne peut du coup que faire assez aveuglément confiance à une minorité de chercheurs intelligents, entre guillemets, sans guère de possibilité de saisir de l'intérieur, la logique interne en jeu, dans cette dernière vague de l'intelligence artificielle, la vision de la population reposant du coup en grande part sur la seule reconnaissance enthousiaste, et à juste titre, des possibilités techniques qui sont offertes. Ici, de fait, l'intelligence critique s'efface au profit d'une forme de croyance et d'émotion qui vaut d'admiration et d'enthousiasme. Le deuxième paradoxe tient aux très grandes potentialités, c'est-à-dire à la flexibilité, à l'inventivité de ces dynamiques connexionnistes, je reviendrai sur le terme, et qui sont en jeu dans la mobilisation des réseaux de neurones dans le deep learning. Et face à cette ouverture extrême de possibilités théoriques, qui est un autre nom de la liberté ici, eh bien, on est saisi par contraste par des effets pratiques souvent limitants ou contraignants qui correspondent à des contrôles possibles qui en résultent pour les populations. L'autonomie de ces machines, quoique générée par l'humain, du fait même de leur capacité extrême de détection et de prédiction, pose en réalité d'une part un problème cognitif en amont, qui est celui de leur échappement possible au contrôle humain, même si c'est parfois plus de l'ordre de la science-fiction que de la réalité, mais en tout cas il y a cette possibilité d'échappement vu l'importance des possibilités qui dépassent les possibilités humaines. Et d'autre part, cela pose aussi le problème politique en aval d'une liberté humaine individuelle entravée par exemple par son traçage numérique. On en a aujourd'hui un exemple très actuel avec la mise en place de l'application Stop Covid, téléchargée en France par plus de 10 millions de personnes, et qui est présentée par le gouvernement comme un moyen de protection et de circonscription du virus, qui est le cas bien sûr, et dont les effets, on le sait, sont également un contrôle accru des déplacements et des géolocalisations des individus. Dans le contexte par ailleurs aujourd'hui très brûlant de la discussion au Parlement français en ce moment même de la loi sécurité globale, on se trouve confronté à une contradiction qui revêt le sens d'un dilemme éthique intranchable entre la flexibilité et la liberté infinie qui est en jeu dans ces réseaux de neurones convolutifs qui ouvrent la voie à des possibilités importantes en matière de soins, de protection, d'accès à des connaissances, et d'autre part les effets tout aussi problématiques de contraintes produites sur l'humain, ce qui, dans ses effets délétères, a bien été nommé, par exemple, par Bernard Stiegler, dont parlait Francis Rousseau à l'instant, par Piton, également, comme l'avènement d'une société automatique, c'est l'expression de Stiegler, ou le court-circuitage algorithmique de l'attention et des volontés individuelles, c'est l'expression de Piton, sans parler très tôt d'une intuition qui remonte déjà à Michel Foucault et à son idée d'une gouvernementalité de la surveillance. Alors, ces deux paradoxes, même s'ils sont distincts, puisque là, on perd au plan d'une popularisation difficile de l'apprentissage profond et de la nécessité éducative de sortir du clivage savant-populaire. L'autre se situant plutôt sur le terrain strictement politique et éthique de l'usage d'une découverte scientifique dans le cadre social et humain et des atteintes à la liberté individuelle qu'elle peut générer. Ces deux paradoxes se rejoignent dans l'importance cruciale qu'il y a à prendre pleinement en considération l'humain, en l'incluant dans la découverte scientifique de l'apprentissage profond et en faisant du coup un vecteur et un critère précieux de vigilance et de régulation, plutôt qu'un objet à traiter et à sécuriser. Et donc à partir de là, je voudrais revenir à un deuxième temps qui concerne justement la place de l'humain et du monde vécu dans l'intelligence artificielle, un défi qui a été déjà relevé historiquement par la phénoménologie et avec l'aide de la phénoménologie. La phénoménologie, ce terme a été déjà présenté et redéfini par Francis Rousseau. J'y reviendrai un tout petit peu plus loin aussi de mon côté. Inclure l'humain et son intelligence critique, placer l'humain et son monde vécu au cœur de l'apprentissage profond et des réseaux de neurones qui le caractérisent, voilà un défi majeur. En effet, l'intelligence artificielle, en réalité, elle y a déjà été confrontée dès sa naissance en pleine guerre froide, et un peu plus tard, et plus particulièrement en 1956, durant cette période, donc, au moment de son acte de baptême par le chercheur américain John McCarthy, lors de son séminaire à l'université de Dartmouth aux États-Unis. Donc ça, c'était au moment de la naissance même du terme et de la discipline. Et en effet, le cadre de référence initial de l'intelligence artificielle, qui s'est identifié dès le départ à un cognitivisme orthodoxe, a produit des machines qu'on a appelées des machines symboliques. Pour le dire simplement, des machines mettant en jeu un calcul formel autosuffisant, autocohérent, Justement, par contraste, la secondariser le monde et l'expérience humaine en l'intégrant en lui. Or, ce paradigme symbolique, formel, domina les débuts de l'intelligence artificielle, sera supplanté, on le sait, dans les années 90, par un autre paradigme, dit alors connexionniste. Donc, c'était le terme que plus haut j'ai utilisé, donc dynamique connexionniste. Dans le cadre duquel les machines, dès ce moment-là, mettent en jeu un calcul qui est fait d'interactions entre des opérations élémentaires. Et ces interactions font émerger, le terme d'émergence est très important ici, ces interactions font émerger des comportements signifiants plus complexes qui sont quant à eux irréductibles aux données élémentaires premières. Donc pour le dire autrement, donc on a un changement de paradigme. Et pour le dire autrement, une machine donc de ce type se configure de façon structurelle en articulant trois coordonnées, le monde, un calculateur et un horizon. Donc le concepteur fait entrer les données, donc une image, donc quelque chose qui provient du monde, dans une machine qui produit un calcul et qui, dans le cas du deep learning, permet à cette machine d'apprendre progressivement, par exemple, à reconnaître les données en question et produit à partir de là un résultat qui va être l'identification de ces données, par exemple le nom correspondant à l'image. C'est ce qu'on a de manière très simple dans une manifestation quand un certain nombre de caméras de surveillance sont capables de détecter, parce que les personnes ont déjà été enregistrées dans une base de données, sont capables de détecter quel est le nom correspondant à l'image. Alors que c'est donc les concepteurs des machines symboliques, la première vague de l'intelligence artificielle, cherchaient à insérer le monde, les données et l'horizon, son résultat, le nom correspondant à l'image par exemple, dans le calculateur, la réussite actuelle des machines qu'on dira connexionnistes et donc prédictives dans le cas du deep learning tient au fait que, de façon presque opposée, ceux qui les fabriquent vident le calculateur pour que ce soit le monde qui se donne à lui-même son propre horizon. Du coup, on a un changement d'importance de ces trois coordonnées dans le cas des machines de deep learning, puisque elles installent en fait le calculateur sur un monde en lui conférant un horizon. Donc ces formulations, je les reprends à un article de Dominique Cardon de 2018, La revanche des neurones, l'invention des machines induites de la controverse de l'intelligence artificielle, qui est extrêmement éclairant concernant l'histoire de ces mutations et de l'émergence du deep learning, et ces formulations sont particulièrement parlantes. Pour le dire autrement, le calculateur en question n'intègre plus le monde en lui, en l'absorbant, mais d'une certaine manière, il est le support transitoire entre un monde qui est le point de départ et son horizon enrichi par le sens, point d'arrivée, qui va être irréductible au point de départ. Donc on voit le lien ici entre la structure du connexionnisme qui justement crée de la complexité irréductible au point de départ et le fonctionnement ici donc de ces machines connexionnistes prédictives. Donc le deep learning hérite ici directement, pour le dire simplement, de cette dynamique inclusive issue du connexionnisme et de l'émergentisme, inclusive donc prenant en considération le monde à plein. Et donc il n'est pas anodin justement à cet égard que les chercheurs qui sont indissolublement des philosophes et des scientifiques et qui ont permis donc ce virage d'intelligence artificielle et cette réinclusion du monde dans les années 90 se soient, je dirais, abreuvés à la source phénoménologique. Dans la mesure où la phénoménologie, eh bien, c'est justement cette discipline et cette philosophie qui naît au début du XXe siècle, qui remet le sujet au centre, et avec lui, le monde et le corps. Donc la phénoménologie produit à cet égard un diagnostic très lucide dès les travaux de son fondateur, donc Edmund Husserl, philosophe allemand, et son texte majeur dans les années 30, La crise des sciences européennes, qui s'appelle La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Husserl, dans ce texte, justement, produit un diagnostic de la tendance qu'ont les sciences à objectiver le monde et à oublier une subjectivité ancrée dans le monde et installée dans son corps. C'est ce qui conduira le disciple le plus célèbre de Husserl, Martin Heidegger, à produire à son tour une critique sans appel de la technique au nom justement d'une réhabilitation de l'humain et de son habitation dans le monde. À cet égard, la formule célèbre est aussi assez controversée de Heidegger, selon laquelle la science ne pense pas, dans, notamment dans un cours de 51-52 qui est repris dans Qu'appelle ton pensée. Quand il dit cela, eh bien, cela ne concerne pas en effet le travail scientifique fondamental et les vertus d'humilité et de prudence des expérimentalistes, mais bien plutôt les risques générés par ce que l'on appellerait aujourd'hui les technosciences et leur pouvoir possiblement déshumanisant. C'est à ce diagnostic, en fait, sans concession, que se ressourcent un certain nombre de philosophes scientifiques, comme par exemple Hubert Dreyfus, dont Francis Rousseau parlait déjà tout à l'heure, dans son célèbre ouvrage de 1972, « What Computers Can't Do, The Limits of Artificial Intelligence », qui a été repris 20 ans plus tard par le même auteur en 1992 dans un autre ouvrage intitulé de manière éloquente « What Computers Still Can't Do », donc qu'est-ce que les ordinateurs ne peuvent toujours pas faire, « Critique of Artificial Reason », Dreyfus puisant essentiellement à la source heideggerienne. Et c'est aussi le cas, par exemple, d'un autre chercheur américain qui s'appelle Rodney Brook, qui promeut une cognition collective et située, ou encore de Francisco Varela, donc, ce chercheur chilien trop tôt décédé en 2003, qui, dès son ouvrage pionnier, L'inscription corporelle de l'esprit, The Embodied Mind, en 1989, en se ressourçant à la pensée quant à lui, aussi bien de Heidegger que de, du philosophe français Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, sa pensée de la chair du monde, mais aussi à la pensée de Husserl, notamment sa pensée du monde de la vie, de son ouvrage des années 30, eh bien, il propose, par son approche qu'il nomme l'inaction, il propose de mettre en question justement la tentation de réduire la conscience à des interactions entre neurones, ou la tentation qui consiste à séparer le cerveau du monde extérieur. Plus précisément, l'inaction, donc ce terme de Francisco Varela, qui signifie mettre en action, la mise en mouvement de l'action, renvoie à une approche non représentationnelle qui met en question qui met à bas la représentation dans le cadre des sciences cognitives. Et de façon équivalente, en fait, son approche consiste à penser que l'information n'est pas une donnée déjà constituée, qui serait un reflet déjà donné, finalement, donc une représentation du monde extérieur, mais déjà donnée, et qui devrait être traité par après par des mécanismes, des processus cognitifs ou artificiels, justement, dans le cas de l'intelligence artificielle. Mais c'est un phénomène à part entière qui doit être pensé pour lui-même et être expliqué pour lui-même. Donc le processus de l'information. Et du coup, il insiste sur le fait qu'avant de s'occuper du traitement de l'information, donc en aval, de la manipulation des symboles de manière utilitaire, les sciences cognitives doivent, selon lui, rendre compte de la formation de l'information, du processus d'émergence, du processus de formation. Cette opération étant, selon lui, la plus fondamentale de toute la cognition. De pair avec le couplage, terme également crucial chez Varela, entre le monde environnant et la structure, justement les processus cognitifs formels en jeu. Et à cet égard, la seule explicitation des règles logiques qui vont s'en tient là, eh bien, elle manque complètement, selon lui, les formes corporelles, situées, incarnées, collectives et contextuelles de la perception, de l'orientation et des décisions des comportements humains. En tout cas, sans aller nécessairement jusqu'à dire comme il y a Dreyfus sur un mode qui est plus radicalement heideggerien que, je cite, c'est sa formulation, le meilleur modèle du monde, c'est le monde lui-même. Ça, c'est une formule de Dreyfus qu'on trouve en 2007, où il radicalise sa position par cette mise en avant d'un monde qui peut se passer même de modèle, ou qui sert lui-même de modèle. Les approches qu'on a dites au début de l'intelligence artificielle hétérodoxe, c'est-à-dire quand elle s'écartait en fait d'un modèle seulement symbolique du début de l'intelligence artificielle, donc ces approches critiques du représentationnalisme de l'intelligence artificielle, eh bien, elle considère, ces approches critiques des années 90, que les représentations sont dans les données du monde et non pas internes au calculateur. Ou, dans le sillage de Francisco Varela, elles se disent clairement non représentationnelles et elles proposent une alternative située, situated, incarnée, embodied, étendue, externée et embarquée, si on veut traduire embedded de cette façon-là, de la cognition et de la machine, selon un modèle d'une nouvelle science de l'esprit, finalement, qui a été en 2010, par exemple, très bien présenté par Mark Rollins dans son ouvrage The New Science of the Mind, et qui correspond à une présentation de ce qu'on appelle aussi la cognition 4E, donc enacted, embodied, expanded et embedded. Donc on a un paradigme alternatif ici dans lequel s'inscrit à plein finalement le deep learning, cette dernière mouture de l'intelligence artificielle et ces réseaux neurocognitifs notamment qui engagent justement une cognition incarnée qui suppose en fait un élargissement fondamental de la rationalité elle-même. En effet, aujourd'hui encore, certains stigmatisent à nouveau l'intelligence artificielle dans sa dimension deep learning, ses développements récents. Stigmatisation qui consiste à considérer qu'on pousserait à bout finalement la logique d'une rationalité algorithmique calculatoire et critique, je cite Jean Violac dans son texte Approche de la criticité en 2018, il critique son essence totalitaire, l'essence totalitaire du dispositif technologique qui tendrait à réduire les individus à des éléments formatés ou programmés, objets d'un calcul universel. Ou qui montrerait ses propres limites, à savoir son incapacité à faire droit au contexte, à la vie et au sens. Alors, c'est la raison pour laquelle je voudrais, à présent, dans un troisième temps, montrer comment l'apprentissage profond peut trouver des ressources à nouveau dans la phénoménologie et peut-être dans une formulation plus récente et plus radicale encore de la phénoménologie. Appelée donc, je dirais, la micro-phénoménologie à la rescousse, pour justement tenter de conjurer ces risques qui sont à nouveau toujours et encore mis en évidence donc, par ces penseurs récemment. Donc, je voudrais montrer comment le deep learning est de recherche confronté à ce défi, qui fut peut-être déjà celui des machines symboliques des débuts de l'IA. Sauf que les années 90 ont fait la preuve déjà, en réalité, que la mutation connexionniste de l'IA a déjà apparemment fait le monde et lui a donné comme modèle une cognition incarnée et située. Et ainsi, le monde et l'humain sont à présent des composantes incompressibles de l'apprentissage profond. Encore faut-il en administrer la preuve auprès de ces critiques légitimes contemporaines qui voient dans les potentialités incroyables du deep learning à travers ces multiples applications que je mentionnais, donc à la santé, à la conduite, à la diffusion des savoirs, un alibi pour mieux contrôler l'humain, pour l'entraver, voire le faire disparaître. Comment donc démontrer que le deep learning est au service de l'humain et non l'humain à sa botte? Donc à cet égard, mon hypothèse sera que la phénoménologie a finalement à nouveau un rôle à jouer dans ce renversement des perspectives. Mais de même qu'un antidote doit être injecté plusieurs fois pour immuniser un organisme, c'est le cas dans la prescription des vaccins. De même, la première injonction des années 90 et injection aussi des années 90 doit être redoublée d'une dose plus affinée peut-être aujourd'hui pour immuniser l'IA, fil de la métaphore, contre le virus d'un calcul objectivant et peut-être encore perçu par certains comme déshumanisant. Mon hypothèse, c'est que l'antidote phénoménologique contemporain doit même déjouer le risque auquel se trouve confrontée la phénoménologie elle-même dans sa version historique, c'est-à-dire un risque de spéculation et de conceptualisation. Et elle doit produire, cette phénoménologie renouvelée, une science de l'expérience vécue qui sera lavée d'une technicité ou d'un jargon ou de structures formelles qui sont souvent encore abstraites dans la phénoménologie historique, et qui la place en réalité. Cette phénoménologie historique peut être trop proche parente d'un risque qui est également celui de l'intelligence artificielle en fin de compte. Et donc c'est pourquoi l'antidote phénoménologique adapté à la situation du deep learning, eh bien, il se nomme à mon sens micro-phénoménologie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous présenter cette approche de manière évidemment très synthétique, qui à mon sens, à cet égard, renouvelle et prolonge l'exigence première de la phénoménologie. Cette exigence d'une attention à l'expérience vécue du sujet, à sa description, cette exigence qui consiste à suspendre les préconceptions. Donc, Francis Rousseau évoquait la notion d'époquer, la méthode de la phénoménologie. Puis je montrerai en fait l'intérêt de cette nouvelle discipline de la microphénoménologie pour le deep learning et évidemment les difficultés auxquelles, en tant que discipline algorithmique, elle est toujours aux prises finalement d'une nasse objectivante. Alors le terme microphénoménologie est très récent. Il a émergé en fait en 2016 de discussions entre des chercheurs rattachés aux archives du CERN à Paris, à l'ENS, Pierre Petit-Mangin, Michel Dubol, moi-même. Avec Pierre Vermersch, qui a été aussi évoqué plus haut, déjà plus tôt dans l'après-midi. Donc ce psychologue français formé à l'école de Jean Piaget, donc psychologue suisse, Pierre Vermersch qui fonda dès les débuts des années 80 une technique d'entretien, qu'il nomma dès ce moment-là l'entretien d'explicitation, dans le cadre de sa recherche en psychologie du travail. La question de Pierre Vermersch, elle est très simple en fait. Il part d'un certain nombre de séquences d'actions d'un sujet, d'actions quotidiennes ou professionnelles, où je sais ce que je fais et je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien, par exemple, si je suis un ingénieur démonter un microprocesseur, je sais très bien aller à la boulangerie pour acheter du pain. Mais Pierre Vermersch se demande en fait comment est-ce que je fais ou comment est-ce que je sais que je le fais et que je le sais et que je sais le faire surtout. Et puis décrire comment je fais. Et en fait, le plus souvent, si je vous demande comment vous, par exemple, comment vous reconnaissez la silhouette de votre ami dans la rue, vous allez me dire que vous connaissez son allure, vous connaissez ses vêtements, vous connaissez sa taille. Bref, vous notez des propriétés structurelles de sa personne que vous connaissez déjà en amont. Et Pierre Vermersch nous dira que, en fait, ce que vous décrivez à ce moment-là, c'est la représentation de cette personne et non votre perception au moment même où vous la percevez, et encore moins finalement la manière dont vous l'avez reconnue, comment vous l'avez reconnue à ce moment-là. Et donc c'est cette différence qui livre, selon Pierre Vermersch, le critère de l'accès que je vais avoir à l'expérience vécue du sujet et à sa description. Soit je reviens à une expérience singulière et située, soit finalement je me contente de la représentation que j'ai de cette expérience, c'est-à-dire à une structure générale. Et c'est là que Vermersch, tout en étant dès les années 90 un lecteur méticuleux de Husserl, un certain nombre de ses textes, que ce soit les directrices, la synthèse passive ou la phénoménologie du temps, eh bien, il voit dans les concepts phénoménologiques des vraies opérations de la conscience, des actes que l'on peut effectuer, et pas des identités formelles, pas des concepts simplement structurels. Et ainsi, la phénoménologie devient pour lui une pratique de description, une pratique d'explicitation du vécu singulier d'une expérience donnée à un moment donné pour un sujet donné. Et c'est aussi évidemment ce qui a permis ma rencontre avec Pierre Vermersch, qui est la culture d'un livre avec lui et Francisco Varela à la fin des années 90, début des années 2000, qui s'intitule On Becoming Aware, Pragmatic Self Experiences. Donc l'entretien d'explicitation permet en effet d'accéder finement à un vécu singulier, souvent recouvert sous sa représentation générique. Si je vous demande, par exemple, comment, lors de la connexion informatique, lorsque la connexion informatique a été établie tout à l'heure, et que malheureusement, voilà, l'exemple que j'avais pris supposait que vous me voyez sur l'écran, donc du coup vous avez entendu ma voix, je vais transposer, vous avez entendu ma voix commencer à... vous m'avez entendu commencer à parler. Idéalement, si j'étais apparu sur l'écran, je vous pose la question comment vous m'avez reconnu, comment vous avez reconnu ma voix en l'occurrence, et que vous me dites que vous me connaissez, que vous reconnaissez ma voix, que vous m'avez déjà entendu, que vous m'avez déjà vu en photo, si jamais vous m'aviez vu à l'écran. En réalité, vous décrivez le résultat général de votre expérience de reconnaissance, à savoir la représentation que vous avez de ma reconnaissance visuelle et issue auditive. Pierre Vermersch dira que vous décrivez une classe de vécu, donc pas un vécu singulier. Mais vous formulez finalement votre expérience de la reconnaissance visuelle et auditive de mon visage, en l'occurrence de ma voix, comme le résultat implicite et sédimenté d'une multiplicité possible d'expériences, de rencontres préalables, de photos, d'audio, de conférences antérieures, en vidéo ou en audio. n'est pas celle de votre perception vécue unique au moment de l'expérience de l'émergence de mon image, de l'émission de ma voix sur l'écran et donc en audio tout à l'heure. Donc c'est ce type de résultat descriptif que l'on lit en fait, cette représentation numérique que l'on lit dans les textes lorsque les phénoménologues se réfèrent à une situation. Sort par exemple écrit au paragraphe 27 des idées directrices 1, je cite, il nous dit « Je puis déplacer mon attention, la détacher de ce bureau que je viens d'observer attentivement, porter mon attention à travers la partie de la pièce que je ne voyais pas, derrière mon dos, vers la véranda, dans le jardin, vers les enfants sous la tonnelle. » Fin de citation. Bien que cet énoncé soit au présent, bien qu'il mentionne un déictique, donc un indicateur de lieu, ce bureau, bien qu'il se trouve porté par un « je », par un pronom personnel, première personne, situé dans un espace régulier, donc la véranda, le jardin, le bureau, qui correspondent donc tous à des marqueurs d'une prise de parole incarnée, comme le dit Vermeersch, bien qu'on est tous là dans cette description de Charles, eh bien, l'exemple, malgré tout, reste générique. L'exemple reste générique, la représentation structurelle. En effet, l'indicateur de la généricité de l'expérience, eh bien, c'est le mode de la possibilité qui ouvre la description. Je puis déplacer mon attention. Husserl a pu vivre cette expérience des dizaines de fois. Il nous restitue en fait une expérience structurelle d'un déplacement attentionnel et pas un vécu d'attention singulier. Plus proche, par exemple, de notre exemple de reconnaissance visuelle que j'ai donc choisi comme thème de cette conférence, mais ici c'est plutôt audio, Husserl nous dit, dans la cinquième recherche logique, en 1901, dans un texte de 1901, il nous dit, je cite, « Nous promenons dans un musée de figures de cire, nous rencontrons dans l'escalier une dame inconnue qui nous fait signe aimablement. C'est la trappe bien connue du musée de figures de cire. Salut un mannequin. Qui, un instant, nous avait abusé. Aussi longtemps que nous sommes le jouet de cette illusion, nous avons une perception, au même titre que les autres perceptions. Nous voyons une dame, non un mannequin. Une fois que nous avons reconnu l'illusion, c'est le contraire qui a lieu. Nous voyons désormais un mannequin qui représente une dame. » Donc cet exemple est particulièrement intéressant parce qu'évidemment, il fait ressortir l'illusion perceptive de la reconnaissance ou non, enfin justement, de la citation visuelle entre une personne et une chose, et un objet. Et ça fait bien écho justement aux capacités par ailleurs prédictives des machines en deep learning qui peuvent différencier un lampadaire par exemple d'une personne dans la rue. Et donc, même si on a une description ici très détaillée de l'illusion perceptive, malgré tout cette expérience dans sa description, elle reste non singularisée, elle reste générique, c'est ça le point que je veux souligner surtout ici. Et cette expérience sort la plus d'affaires plus d'une de fois. Donc, ce n'est pas une expérience singulière à un moment donné. Et donc, il s'agit ici de différencier donc, cette dimension singulière, la dimension générique et représentationnelle. Donc, je vous propose à présent de revenir au moment précis où vous vous êtes connecté tout à l'heure et de décrire le processus, le micro-processus d'émergence de votre vécu à la vision, alors ce ne sera pas mon visage, du coup, à la vision d'un visage que vous avez vu sur l'écran, donc mettons le visage de Francis Rousseau. Donc je nous tiendrai une description fine de votre vécu de ce moment-là, si je vous invite à revenir précisément à ce moment-là. La consigne de Pierre Vermeersch, avant toute chose, ça va être de décrire le contexte de votre situation. Comment vous êtes installé? Vous êtes assis sur une chaise, allongé? Comment est la pièce où vous vous trouvez? Est-ce qu'elle est spacieuse, étroite, haute, basse? Comment est la lumière? La chaleur, revenir au moment précis où vous cliquez sur le bouton pour activer la connexion, la durée de sa mise en place, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est lente, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes détendu, excité, énervé, dans mon cas, comme je n'ai pas réussi à me connecter, j'ai été assez stressé, quel est votre état émotionnel et cognitif, est-ce que vous êtes focalisé, dispersé, et puis au moment où l'image apparaît, comment se déploie mon processus de reconnaissance, est-ce que vous reconnaissez le visage, donc, en l'occurrence de Francis Rousseau, immédiatement, que veut dire ici immédiatement? Ou bien, est-ce que vous constatez un temps d'hésitation lié par exemple au fait que vous l'avez vu depuis longtemps ou que vous n'avez vu qu'en photo, ou bien il a changé de peinture, etc. Ses traits sont différents de ceux que vous connaissez, il est plus détendu, plus fatigué, etc. que l'écran produit une luminosité inhabituelle. Et quand vous voyez son visage, comment le voyez-vous ? Est-ce que c'est, vous voyez le visage dans certains de ses traits, ses yeux, son nez, sa bouche ? Comment vous sentez au moment où son visage apparaît, émotionnellement, cognitivement ? Est-ce que vous êtes content, surpris, etc. Toutes ces questions sont des questions qui émergent au début de l'entretien, une fois qu'on a mis la personne en situation et que le contexte a été resitué et qu'elle s'est à nouveau inscrite dans le moment même de l'expérience. Donc c'est juste le début de l'entretien. Mais cet entretien permet en l'occurrence de décrire finement des micro-processus corporels, des sensations, des kinesthèses, des sensations de mouvement, des proprioceptions, des sensations internes, des mouvements cardiaques. Si je suis surprise en voyant le visage de Francis Rousseau, eh bien, je vais peut-être avoir un mouvement cardiaque différent des mouvements standards. Donc on va avoir beaucoup de micro-processus qu'on va pouvoir ressaisir. Et ces micro-processus sont des micro-processus d'un moment spécifié vécu par un sujet à un moment donné et dans un lieu précis. Donc cette description, elle est bien plus fine, bien plus spécifiée que la description structurelle dont on dispose dans les textes, par exemple, d'Hobson. Et elle déplace à deux titres le curseur descriptif, puisque, encore une fois, le vécu est singulier, spécifié, et pas générique et structurel, premièrement. Et deuxièmement, on a un niveau de granularité de la description, donc le grain de la description, le terme de Pierre Bernard, qui est renforcé, du coup, donne lieu à la mise au jour de micro-séquences très, très fines. Alors, donc voilà ce qu'on peut obtenir, vous voyez la précision descriptive des processus internes qu'on peut décrire, on voit à ce moment-là spontanément comment ceci peut se rapprocher ou se mettre en relation dans la temporalité même du processus d'émergence d'une image ou d'un son dans le cas donc, de ce qui se mouline automatiquement pour une machine dans le cas du deep learning. Alors en conclusion, je voudrais... simplement à l'exemple donc, de la reconnaissance visuelle qui était en fait mon thème de conférence, essayer de vous montrer à travers quelques pistes comment on peut croiser le processus prédictif et détectif en troisième personne qui est en jeu donc, dans ce processus de reconnaissance visuelle vocale que permettent ces machines à automatiser et l'expérience perceptive humaine en première personne telle que la microphénoménologie peut nous permettre d'y accéder de façon extrêmement fine. On sait que la dynamique de prédiction et de la reconnaissance des signaux visuels et vocaux, ça correspond à un champ emblématique et en plein développement dans l'apprentissage profond. On sait aussi que le processus de reconnaissance d'un visage ou d'une voix par une machine est bien plus rapide que ce que peut réaliser un être humain. Car évidemment, cette machine elle a été entraînée à un repérage depuis une base de données. Et c'est par exemple ce que pratiquent depuis longtemps les services de police ou de renseignement pour identifier des terroristes et criminels, par exemple. Mais dans cet exemple, ce dernier exemple, seul le résultat, c'est-à-dire l'identification et la vitesse d'identification est déterminant. Par contre, dans d'autres cas, si on cherche à repérer l'état émotionnel d'une personne en état de choc ou en état d'allégresse, le seul résultat, c'est-à-dire l'identification du visage ou de la voix, ne suffit pas et la vitesse d'identification peut apparaître secondaire. En tout cas, elle n'est pas forcément le critère absolu. Dès les années 70, le psychologue américain Paul Ekman a recensé 6 émotions primaires, comme on le sait, en détectant des micro-expressions du visage. Et ces 6 émotions, on les connaît bien maintenant, c'est la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise et la joie. Or, Ekman reconnaît lui-même que selon les populations, il a travaillé au départ avec des populations guinéennes dans un contexte anthropologique, selon ces populations, on peut parfois difficilement différencier, par exemple, la surprise et la peur sur un visage. De mon côté, dans un programme de recherche ANR, que j'ai mené sur la surprise et les émotions, bien j'ai été conduite à un constat qui amplifie encore cette difficulté et à souligner l'importance d'une description justement en première personne du vécu de la surprise pour identifier, par exemple, quel en est le contenu émotionnel. Est-ce qu'on a affaire à une balance positive, donc à la joie, ou négative, à la peur. Ce que ne permet pas forcément de relever, en tout cas, les courbes neurophysiologiques auxquelles on peut se reporter. d'aide à une personne en difficulté, la description fine en première personne du processus de la reconnaissance visuelle, émotionnelle, de l'expression d'un visage, permettrait, comme ne peut bien le faire aussi bien une machine, de connaître le contenu émotionnel vécu singulier de la personne. Et par exemple, si la surprise exprimée, elle est de l'ordre d'un choc traumatique, donc elle révèle de la peur, ou au contraire, elle est de l'ordre d'une curiosité, d'une perplexité, et à ce moment-là, elle révèle autre chose, elle révèle quelque chose de positif. Mais l'expression du visage surpris ne permet pas à lui seul, de l'extérieur, donc identifié par une machine, de connaître l'état émotionnel interne, positif ou négatif. Donc là, on a un apport extrêmement intéressant et un croisement extrêmement intéressant des deux types d'identification des processus et de ce que chaque processus permet d'identifier de manière mutuelle. Donc je formulerai ici simplement pour terminer quelques questions, pour ouvrir nos échanges. Donc comment ces deux processus algorithmiques et vécus peuvent se compléter, peuvent enrichir notre compréhension de l'apprentissage profond de la reconnaissance visuelle. Quel rôle joue par ailleurs spécifiquement une dynamique vécue de cette reconnaissance et la description de cette dynamique? Comment éduquer plus avant notre subjectivité une telle reconnaissance, donc à travers la microphénoménologie, si on part de là. Comment la phénoménologie et la microphénoménologie permettent justement d'inclure l'humain et l'éthique de la relation à l'autre dans la prise en compte de cette expérience vécue par des personnes, du coup sujet d'expérience, et pas seulement objectiver, c'est-à-dire identifier de l'extérieur à travers leur visage par une machine. Avec la microphénoménologie, le processus de reconnaissance met le sujet aux commandes, de part en part du processus, et pas simplement en amont, dans le fait de mettre les données dans la machine et en aval dans la capacité à récupérer le résultat. On est de part en part finalement aux commandes du processus d'expérience et de description. Et donc cela permet de ne pas laisser finalement à la machine, en l'occurrence, le pouvoir entier de la détection. En le corrélant ce pouvoir avec une micro-description, eh bien, on réinclut l'humain et le vécu. Et on fait de l'algorithmisation un processus également vécu. Une question évidemment demeurant en dernière instance, si la machine prédictive reconnaît des traits d'un visage, à savoir une physionomie, comme par exemple le noble psychologue Jonathan Cole dans son livre Pionnier About Face, à propos des visages, à propos des physionomies, la microphénoménologie, à la suite du philosophe français Emmanuel Levinas, voit en revanche émerger un visage qui est d'emblée éthique, donc pas une physionomie, pas un ensemble de traits. Ce visage étant caractérisé par Emmanuel Levinas comme irréductible à ses traits, justement, à ses organes, à sa physionomie. Donc il fait cette distinction entre visage et physionomie. Et il nous dit, dans L'éthique et infinie, un livre d'entretien qui est paru en 1982, il nous dit, c'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. Donc en fait, il met en question cette description objectivante d'autrui à travers ses traits de visage. Et il nous dit, la meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même regarder la couleur de ses yeux. Donc de ne pas faire attention aux différents traits particuliers qui caractérisent son visage. Il ajoute, quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, donc par la connaissance des traits particuliers, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne réduit pas. Donc on a ici un projet évidemment qui est très ambitieux, hein, de dégagement finalement d'un visage qui ne serait pas réductible à la somme de ses traits et à sa perception, donc un projet éthique. Et une question qu'on pourrait se poser, qui pourrait être un peu à l'horizon aussi d'une partie de nos questions de recherche pendant ce temps de notre programme de recherche, ce serait de savoir si les réseaux de neurones convolutifs du deep learning répondent à une architecture algorithmique non linéaire, c'est-à-dire qui ne correspond pas à une succession de traits dégagés les uns après les autres dans leur temporalité, bien, il serait intéressant de se demander s'ils ne permettraient pas, peut-être, de retracer un processus d'intégration globale, très économique, processus qui serait lui aussi irréductible à la somme des traits ou à leur succession, qui correspond au schéma donc, que condamne Lévinas, et dès lors en résonance possible avec ce que Lévinas lui-même nomme un visage. C'est un peu une question à l'horizon, c'est une question spéculative, c'est une hypothèse qui serait intéressante peut-être de vérifier ou de travailler plus avant. Alors pour conclure, je voudrais juste revenir à la 50 secondes qui vous ont été proposées donc, du générique de Person of Interest au début de cette présentation. Person of Interest, comme vous le savez, une série télévisée science-fiction et qui met l'accent sur une problématique criminologique qui a été publiée en 2011. Et dans cette série, en fait, une machine est conçue pour contrer le terrorisme. Mais le personnage principal, John Reed, est le concepteur de la machine, et le concepteur de la machine, Finch, donc ces deux personnages, utilisent en fin de compte cette machine pour sauver des vies ordinaires. Et donc, au-delà finalement de l'identification des criminels et des terroristes, bien, elle se trouve dévoyée de son premier but, et elle va être mise au service donc finalement d'un projet éthique. Donc, il s'agit de sauver des vies ordinaires en prévenant des crimes, en sauvant des innocents, et en usant, ce faisant, des possibilités de prédiction infinie de cette machine. Oui. Donc, on voit ici, finalement, l'ambivalence technique et technologique au regard d'un projet de recherche fondamentale, c'est ce dont je parlais au tout début. De cette science fondamentale, dont le moteur est la liberté, la découverte, à ses usages technologiques, qui, quant à eux, fracturent cette liberté essentielle en une morale du bien ou du mal, ayant des enjeux politiques qui peuvent être féconds ou délétères, eh bien, on peut avoir le sentiment qu'on a perdu l'enthousiasme des possibles infinis que libère la science. Il me semble que la vertu de la phénoménologie et de la micro-phénoménologie aujourd'hui permet de remettre l'humain et l'expérience vécue au cœur de la science, en amont même peut-être de sa technologisation et de ses dilemmes éthiques, de façon à contribuer à tuer dans l'œuvre, en tout cas à faire reculer des usages possiblement humains ou déshumanisants. L'approche en première personne, qui est la micro-phénoménologie, elle peut ainsi s'avérer un partenaire de choc de l'approche scientifique en troisième personne, qui court toujours le risque tendanciel d'une objectivation, et contribuer à sa resubjectivation, dans un équilibre qui est certes fragile, mais qui est aussi décisif, et qui est toujours destiné à replacer l'humain au centre. Donc on aurait une expérience vécue comme guide et comme vecteur de la recherche scientifique, un beau moyen de régulation et de vigilance, un travail mutuel en fait, de fructification bienveillant. Voilà, je vous remercie et je suis désolée et très frustrée de ne pas pouvoir être là en visuel et de vous nier que ma voix pour cette présentation. Merci de votre attention.
Merci beaucoup Nathalie. J'espère que tu nous entends et j'espère que les personnes qui assistent nous entendent et m'entendent aussi. Juste, il y aura aussi beaucoup de frustration dans l'assistance. On va voir comment vous donner la parole. Ça ne va pas être facile. Je crois savoir que Philippe Alcaraz nous entend. Mais merci pour ce très bel exposé. Il y a évidemment plein de choses à dire. Moi, je veux juste en dire quelques-unes. Je trouve très, très beau, très belle cette idée de conjuration mutuelle des risques avec ta piqûre de rappel là, qui conjurerait à la fois la tentation formelle de la phénoménologie et celle des réseaux de neurones profonds à finalement s'écarter d'une description du vécu. C'est une très belle idée parce qu'elle garantit dans la chair les intérêts mutuels. Tu, comme phénoménologue, trouveras aussi un intérêt disciplinaire autrement que de faire une phénoménologie des réseaux de neurones profonds. Tu travailleras aussi le cœur de la phénoménologie. Donc, c'est une très belle garantie. Et puis, alors, tu réponds là, à la fin de ton exposé. Finalement, tu renvoies à la question des données de l'apprentissage profond. Tu réponds à Antoinette Rouvroy et d'autres quand ils font cette critique du fait que les données traitées par les réseaux de neurones profonds sont prêtées de, si je puis dire, sont prêtées de causalité, c'est-à-dire que l'approche des réseaux de neurones tente à décider a priori qu'il y a de la causalité là où il ne peut y avoir que finalement du hasard. Et toi, tu, par-delà même cette critique, tu demandes à ce que les données soient nativement empreintes d'humains, c'est-à-dire qu'on change les jeux de données. Ça me fait penser à un autre Pierre, tu as parlé de Vermeersch, j'étais très touché tout à l'heure d'apprendre qu'il n'était plus de ce monde, je ne le savais pas, mais un autre Pierre, plus ancien lui, phénoménologue aussi, c'est Pierre Schaeffer, dont tu te souviens sans doute, de l'inventeur de la musique concrète, de son traité des objets musicaux. Et Pierre Schaeffer, dans le domaine de la musique, entreprenait un travail qui ressemble beaucoup à celui que tu décris comme étant entrepris par Pierre Vermeersch et toi. Hein, ce retour à une espèce de musique, à des sons donnés pour eux-mêmes et pour la manière dont ils sont ressentis, plutôt que purement causaux, justement. Hein, je n'entends pas un cheval qui passe, ça c'est interdit dans les traités des objets musicaux. Je dois décrire le son pour ce qu'il est. Et donc, c'était le propos de la musique concrète et de Pierre Schaeffer, c'est exactement la même chose. Juste un point, alors là, un point historique hein, que je voudrais peut-être juste rectifier, est un grand mot, mais en intelligence artificielle, l'approche symbolique et l'approche connexionniste ne se succèdent pas, enfin, dans le sens où il n'y a pas une approche connexionniste qui viendrait après. En réalité, elles sont parfaitement natives et concomitantes. C'est-à-dire que, ou à très peu près, je t'accorde que le perceptron est un tout petit, vient un peu après la conférence de Dortmund que tu as citée avec McCarthy en 1956, mais si tu veux, il y a quand même très tôt ces deux mouvements qui sont co-présents, et le renouveau du connexionnisme, qui ne s'est jamais endormi, hein, je travaille en ce moment dans un journal avec Françoise Fogelmann-Soulier, par exemple, qui est la française du connexionnisme, elle est toujours là. Les connexionnistes ont toujours travaillé. Mais ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, le mouvement, le symbolisme pouvait, l'approche symbolique pouvait se rapprocher, pouvait avoir des symboles de plus en plus petits, au sens presque de Vermeersch, à cause de la disponibilité de données numériques. Donc, on pouvait avoir des symboles de plus en plus proches de signaux, de plus en plus proche des phénomènes que l'on voulait encapsuler. Et puis d'autre part, il s'est trouvé que pour des raisons, une conjonction, disons, technique, d'amélioration d'algorithmes, d'amélioration de la capacité de traitement des machines, d'une certaine invention qui est l'invention de la convolution, ces algorithmes qui s'étaient un peu endormis, se sont d'un coup réveillés et ont d'un seul coup subsumé les performances de l'approche symbolique en écartant tous les inconvénients qui étaient portés par cette approche symbolique, à savoir la nécessité de représenter le monde, hein, qui est évidemment très coûteuse, comme on peut l'imaginer. Donc, voilà, c'est une toute petite... tout petit point d'histoire, enfin. Il n'y a pas eu, je crois, hein, enfin j'en suis certain, il n'y a pas eu une approche connexionniste qui serait venue supplanter l'approche symbolique. Elles ont toutes les deux existé. D'ailleurs, on continue à essayer de les faire coexister. Tu sais, tout ce courant qui cherche à exiger des algorithmes connexionnistes qu'ils aient une portée explicative. Tout ça est vraiment très intéressant. Et donc, qu'ils puissent se raccorder à un monde, à une épistémologie symbolique pour pouvoir expliquer ce qu'ils font, ne serait-ce que ça. En fait. Voilà.
Mais, oui, je comprends. Je suis en pleine découverte de ce champ, donc évidemment merci de cette précision.
C'est juste une précision.
C'est important de rectifier la chose. Je pense que j'ai, à ma décharge, je pense que j'ai été un peu influencée, une sorte d'illusion d'optique de l'article de Luc Cardon.
Oui, oui, tout à fait.
Auquel je me référais, parce qu'en fait, lui-même, il présente les choses d'un point de vue historique.
Ouais, ouais.
Et donc, il le présente un peu comme une sorte de succession. Et il insiste moins sur le mouvement d'intégration que sur le mouvement de contestation et de marginalisation au départ du connexionnisme, puis de revenir au premier plan. Donc, du coup, voilà, il le présente un peu comme une lutte. Et je pense que j'étais un peu influencée par cette illusion.
Mais en effet, en tout cas, donc, tu renvoies à une exigence. Finalement sur les données, hein, je reviens maintenant au cœur de ton propos, que les données elles-mêmes soient nativement empreintes de leur relation avec une signification, enfin, Je crois que tu questionnes finalement très adroitement, tu renvoies le problème en direction des données, de leur qualification, d'une certaine manière,
dans ta conclusion.
Je
te remercie parce que je pense que c'était peut-être encore un peu implicite dans mon propos, mais la manière de le formuler permet de mieux encore saisir l'enjeu que la phénoménologie peut représenter pour le travail scientifique dans cette exigence de lester effectivement les données, en tout cas les matériaux, en fait, la matière même de notre relation au monde, de ne pas la penser de manière externe, mais de la penser vraiment comme d'emblée quelque chose qui est blanc de sa conscience, enfin du fait qu'il y a de la conscience dans le donné, hein, et il y a du sens dans le donné dès le départ, en réalité. Ce qui semble évident, par ailleurs, d'un certain point de vue, mais qui est peut-être parfois un peu négligé, ça.
Oui, oui. Mais évidemment, donc le challenge envers les collègues informaticiens est vraiment redoutable. Alors, ce qui serait très bien, évidemment, c'est que les auditeurs puissent participer. Alors, je sais que Philippe Alcaraz est là, je ne sais pas trop comment. Je me tourne vers Michaël Langlais qui est avec moi. On va devoir essayer de se débrouiller, je ne sais pas comment. Je vois Eddy Soulier, qui est un ami philosophe informaticien qui est là aussi. Alors, comment faire comment pourriez-vous faire?
Peut-être si vous récupérez les questions même à l'écrit et
alors,
que
voilà.
Je les transmets.
Eddy, est-ce que oui, on va essayer de récupérer les questions. Est-ce que par exemple, Eddy?
Oui.
Parfait. Oui. Et voilà, est-ce que tu veux prendre la parole? Puis nous, on va chercher à mettre en ligne Philippe Alcaraz.
Oui,
Eddy.
Oui. Bah, merci, je veux bien. Oui, c'est vraiment passionnant et vraiment au cœur des questions qu'on peut se poser. Moi, ma question, elle est un petit peu autour de... Bah, en fait, c'est un petit peu la question de la phénoménologie. Alors, voilà, on peut voir Husserl comme le dernier Kantien, ou, hein, c'est toujours un petit peu la question qui est... la donnée, justement, elle réfère quand même énormément à une hypothèse qui fait de la conscience, quand bien même elle serait un petit peu située, comme chez Varela et d'autres, mais qui fait quand même de la conscience l'opérateur principal de la réalité, en quelque sorte. Et ça peut poser problème, éventuellement, quant au rôle que pourrait avoir après les algorithmes, les calculs sur justement des phénomènes de représentation, parce que est-ce qu'il n'y a pas quand même une solidarité entre la notion de données et la notion de représentation? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture à faire sur des données qui ne seraient pas des représentations, en quelque sorte? Et ça, je pense que c'est un problème parce que, bon, quand on travaille vraiment avec des hypothèses en informatique, notamment, où on prend en compte, en gros, l'environnement, le contexte, la situation au sens très, très large, que ce soit dans une approche pragmatique ou... Bon, moi, je travaille en particulier avec une hypothèse, whiteheadienne, en quelque sorte. On a un petit peu de mal à ajuster l'environnement pragmatique ou whiteheadien avec, je dirais, les présupposés husserliens. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez un petit peu de cette question. Que faire des gens qui, en gros, ont un niveau de raisonnement qui ne se limite pas à l'humain et à la conscience, et qui, par contre, prennent en compte ce qu'on appellerait, disons, un contexte au sens large, et donc un ensemble d'entités qui ne sont pas des représentations, mais qui sont plutôt une forme de production, en quelque sorte, de coordination, à tout le moins. Voilà un peu le sens de la question que j'aimerais bien poser, parce que c'est vraiment l'interface entre le sensible et l'intelligible, mais le sensible ne se limite pas à un acte mental ou un acte de cognition ou de perception.
Moi, j'ai entendu la question à peu près.
Ouais. Merci.
Je vais essayer de répondre si je peux.
Oui.
Vous m'entendez bien, ça va? D'accord.
Oui.
Oui, c'est vrai que c'est une question massive, hein. C'est une question très énorme. Alors, je pense qu'en fait, la difficulté, c'est que à la fois, la phénoménologie a beaucoup à aller chercher, a beaucoup à se ressourcer dans la philosophie de Husserl, d'une part, mais qu'en même temps, elle-même, elle est confrontée à des limites et à peut-être à des besoins d'évoluer pour pouvoir rejoindre de manière beaucoup plus fine des projets scientifiques contemporains comme celui du deep learning. Donc, c'est un peu le grand écart, je pense, si on essaye de faire se rejoindre directement la pensée de Husserl ou le deep learning. À mon avis, ça, c'est un combat perdu d'avance, en réalité. Et du fait même des présupposés que vous mentionnez, des présupposés de l'a priori de la conscience, des présupposés qui mettent en avant une structure encore très représentationnelle chez Husserl, même si peut-être à certains égards, bah, ce serait plus proche pour vous que des projets trop pragmatiques, mais en tout cas, je pense qu'il y a peut-être deux versants à distinguer. D'une part, si on met l'accent sur un projet trop, subjectiviste chez Husserl, si on met trop l'accent sur la conscience et qu'on perd de vue le fait que le projet de Husserl, c'est un projet de réinclusion de la conscience dans le monde et de valorisation finalement des données qui sont des phénomènes, si on redéfinit les données comme des phénomènes, c'est-à-dire comme des qualités d'expérience qui sont d'emblée vécues, à ce moment-là, évidemment, on n'est plus tout à fait sur une conception de la conscience qui serait comme une sorte de piédestal, un peu en surplomb, et qui serait le juge de toute du critère de vérité de la réalité. Enfin, on a un peu baissé dans nos prétentions à ce moment-là transcendantales, donc on n'est plus dans un schéma kantien du tout, et on est dans une phénoménologie qui est beaucoup plus génétique, enfin, qui s'intéresse plus au processus d'émergence.
Immanente.
Allô ?
Oui, je dis ou immanente en fait, plutôt que transcendantale.
Voilà, plus immanente, exactement. Et c'est aussi ça, Husserl, en fait. Il y a aussi ça chez Husserl.
Il y a ça chez Husserl, dans la troisième recherche logique, par exemple.
Par exemple, aussi. Donc très tôt, finalement. En réalité, il y a un fil husserlien qu'on peut suivre à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Les données immanentes de la conscience. Donc je pense qu'il y a des choses à aller chercher chez Husserl, mais en même temps, enfin moi, c'est vrai que mon pas de côté, entre guillemets, c'était de considérer qu'en fait, les descriptions qu'on trouve chez Husserl restent trop générales, et que si on veut faire un travail vraiment de mise en connexion avec du travail scientifique expérimental, de mise en relation avec des processus très fins, temporellement très très fins, on a besoin de descriptions plus fines sur le plan phénoménologique. Et c'est là que d'une part, déjà, une partie du travail de Francisco Varela, qui a cherché à mettre en relation les deux, peut servir de guide au départ. Même si lui-même, en réalité, à mon avis, il était dans le même dilemme, c'est-à-dire qu'en fait, il a cherché à mettre en relation directement les descriptions husserliennes et les processus neurodynamiques, dans son cas. Et en fait, ce n'est pas possible. En fait, c'est le grand écart, quoi. Ça ne marche pas. C'est une belle hypothèse spéculative, mais de fait, quand on la met au travail, elle ne marche pas, parce qu'il y a trop d'écart. Donc l'idée de la microphénoménologie, c'est de servir de moyen terme et d'offrir une plateforme expérientielle beaucoup plus fine qui peut se relier par une description très micro à des processus et même très fins sur le plan formel. C'est un peu ça l'idée. Hein.
Merci beaucoup, Merci beaucoup. Ça répond vraiment à la question.
Nous avons Philippe Alcaraz et Nathalie Deprin, que j'ai appelé comme un groupe WhatsApp. Donc, Nathalie peut entendre et Philippe aussi. Je crois que ces deux personnes font connaissance dans ce moment étrange. Philippe, as-tu pu suivre la présentation de Nathalie ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Ben, peut-être, on pourrait t'inviter. Je rappelle que Philippe Alcaraz.
Je vais quitter ma connexion.
Ouais, voilà. Philippe est le PDG d'AirTiS, la société qui a décidé, je dois dire immédiatement, de s'engager dans cette chaire de phénoménologie et d'intelligence artificielle. Et c'était un grand moment quand Philippe a dit « moi, ça m'intéresse ».
Oui, c'était un moment étrange, comme tu dis. C'est-à-dire qu'en fait... J'ai trouvé l'idée suffisamment folle pour la suivre. Et en fait, je vais expliquer pourquoi. Bon, d'abord, je me présente un petit peu. Donc, effectivement, je suis français, je suis basé à Istanbul depuis maintenant presque 9 ans. Et j'ai accepté à cette époque-là, aussi une idée folle, parce que je ne connaissais pas du tout le pays, de prendre la direction d'une société qui avait décidé de rendre le Wi-Fi meilleur pour les gens. On va dire. Voilà, c'est la mission, je peux la préciser davantage, mais c'est vraiment d'apporter la meilleure expérience utilisateur possible aux consommateurs chez eux, dans leur foyer, en matière d'expérience numérique. Et maintenant, on sait encore plus qu'avant ce que ça veut dire, puisqu'on parle d'éducation, on parle de travailler, on parle évidemment de se distraire, et surtout, enfin pour ma part en tout cas, puisque je suis un joueur de jouer. Bien, pas des jeux d'argent, mais voilà. Et donc, tout ça, finalement, avec une vision qui est que le Wi-Fi doit être disponible comme l'eau courante, sans se poser de questions, finalement. Et c'est bien entendu loin d'être le cas. Bon, parce qu'on n'a pas un problème Wi-Fi dans notre conférence aujourd'hui, mais on voit bien que la technique a tendance à être un peu trop prédominante et à nous embêter dans nos communications. Même si, bon, les choses ont bien expérience très réussie, quelle est une expérience qui ne l'est pas, en analysant des données techniques. La réalité, et pourquoi on a besoin d'un Wi-Fi un peu meilleur dans les maisons, c'est que chaque personne, chaque foyer est différent. On va, dès que vous avez un ou deux murs, les choses sont atténuées. Dès que vous avez des voisins, leur Wi-Fi interagit avec le vôtre. Dès que vous avez plusieurs utilisateurs dans un même foyer, les choses peuvent devenir très problématiques. Mais surtout, il y a autant d'utilisateurs différents que de foyers. On a des gens, par exemple, qui ont accès à des très très hauts débits, le meilleur, et qui sont très mécontents de ce qu'ils ont. Tout simplement parce que leurs besoins excèdent de beaucoup leurs besoins ou leurs attentes. Excèdent de beaucoup ce qu'ils ont chaque jour. Et puis, à contrario, il y a des gens qui ont un Wi-Fi qu'on pourrait qualifier techniquement de médiocre, mais qui leur suffit bien. Et puis, pour complexifier plus avant, nous sommes présents sur 4 continents. On a des clients, évidemment français, on a Bouygues Telecom qui est notre client. On a des clients aux États-Unis, comme ATT, une des plus grandes sociétés mondiales, en Australie, en Asie du Sud-Est, etc. Et donc là, les habitudes, les perceptions sont différentes à chaque fois. Donc, on est face finalement à un océan de l'inconnu. On a quelques intuitions, mais ça reste des intuitions, et plutôt que de foncer la tête baissée, comme beaucoup de gens qui, comme nous, investissent, pouvoir mettre un label intelligence artificielle sur ce qu'ils font à tour de bras, nous, on a préféré ne rien faire de tout ça et d'appliquer le bon sens. Par ailleurs, nous sommes très attachés à la confidentialité des utilisateurs, et notre vision à terme, c'est qu'il y a des puissances de calcul considérables, c'est vrai, mais on oublie qu'il y a des puissances de calcul considérables qui ne quittent jamais la maison. Et notre idée, c'est finalement d'amener cette puissance de calcul, cette intelligence, au service de l'utilisateur, pour l'utilisateur, et je dirais même avec des données qui resteront chez l'utilisateur. C'est pour ça que même si on fait du Wi-Fi, on a couplé nos actions avec des gens qui sont des grands spécialistes de la sécurité informatique, parce qu'on pense qu'à terme, il y a déjà des pas qui sont avancés sur le respect de la confidentialité en Europe, qui sont maintenant emboîtés, que ce soit en Australie ou en Californie, pas tous les États américains, mais ce n'est que le début. Je pense qu'il va y avoir, et c'est une bonne chose, des mesures drastiques qui sont appliquées pour protéger la vie privée. En tout cas, il y aura des mouvements contraires, mais il y aura des mouvements aussi dans ce sens-là. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a des moyens techniques pour le permettre. Donc finalement, on peut arriver à faire travailler des puissances de calcul considérables, puisque bon, on a quelque part, même si c'est totalement anonymisé, 28 millions de foyers qui renvoient des informations, mais probablement trop d'informations et probablement les mauvaises informations, qui devraient à terme nous permettre d'établir des liens de cause à effet tout, que l'on renverrait dans les foyers et où on pourrait permettre à l'utilisateur d'améliorer globalement son système quasiment par lui-même en interagissant avec un système d'intelligence artificielle. Quelle est la manière de réagir? La reconnaissance de la voix? Peut-être pas. Peut-être que ce sont des relations visuelles. Peut-être que on lui présentera un visage. Mais en tout cas, on ne ferait rien. On ne veut rien faire dans un sens d'atteinte à la vie privée. Voilà. Donc, et on pense qu'il faut aborder les choses avec un esprit extrêmement ouvert. Le temps, ici, n'est pas une contrainte. C'est important, ce que j'attends un petit peu de cette collaboration, c'est juste de donner des directions de recherche, des recherches aussi pour nous. J'ai déjà obtenu satisfaction dès aujourd'hui, puisque une des idées fortes qui est ressortie, à mon sens, c'est qu'il faut que les données elles-mêmes intègrent l'expérience ou l'émotion d'une manière ou d'une autre. Ce qui pose évidemment un problème assez considérable, mais que je trouve très très intéressant. Donc voilà, en deux mots, je voudrais aussi compléter en disant que il n'y a pas de... ma vision de l'entreprise, c'est que l'entreprise est une personne. Donc, je ne suis pas du monde académique, si je suis beaucoup intéressé à la philosophie, comme j'étais beaucoup plus jeune. Je ne suis pas ingénieur non plus. J'ai géré beaucoup d'ingénieurs dans ma vie, mais je ne suis pas. Par contre, je suis un gestionnaire d'entreprise. Et ma vision de l'entreprise, c'est qu'une entreprise, c'est un groupe de personnes humaines qui interagissent avec d'autres personnes humaines, mais qui a, en tant que telle, en tant que personne morale, on a raison de définir une entreprise comme une personne morale, une mission et des valeurs. Et quand vous regardez, si vous allez sur notre site web, c'est en anglais, je suis désolé, mais si vous regardez un petit peu nos valeurs, vous en retrouverez qui vous expliqueront un petit peu pourquoi nous sommes dans ce programme, puisque on parle évidemment de fun et de positivité. Il faut avoir sacrément un attachement au fun et à la positivité pour se lancer dans un programme comme celui-là.
C'est vrai.
Il faut avoir peur de rien. Alors justement, on a une autre valeur qui est importante, c'est que on a peur de rien. On sommes braves et sans peur. C'est une de nos valeurs. Pour qu'une société turque parte un peu la fleur au fusil en envoyant une seule personne aux États-Unis et finisse par signer avec AT&T, le plus grand opérateur au monde, il fallait un petit peu un grain de folie. Donc, totalement ici. Mais aussi, une de nos valeurs, c'est que nous sommes attentionneux vis-à-vis des autres. Alors, attentionneux vis-à-vis des autres, ça veut dire déjà dans l'entreprise, ça veut dire avec nos partenaires, et ça veut dire aussi, bien entendu, avec nos clients et les clients de nos clients. Donc, cette espèce de bienveillance, elle fait partie de nos valeurs. Donc, l'humanité est au cœur de ce que l'on fait. Et donc, si vous vous demandez à n'importe quel client pourquoi il travaille avec nous, ce n'est pas parce qu'on a la meilleure technologie, c'est parce que on arrive à être honnête, humain, ouvert, et dans le fond, on est face à un océan d'inconnu aujourd'hui, qui va très vite. C'est ça la partie vertigineuse. C'est que ça va vite, on n'a aucun contrôle. Et c'est justement le moment de faire une grande pause, parce qu'on n'a aucun contrôle en réalité, donc il faut savoir où on va se poser et regarder. Parce que typiquement, la vie d'une entreprise, c'est tous les trimestres, tous les mois, quels sont les résultats, etc. Mais en fait, on oublie complètement que les résultats, justement, ce ne sont que des résultats. C'est les résultats d'une action qui est pensée, qui est en adéquation avec la mission, qui est en adéquation avec les valeurs. Et donc, c'est important de le noter, parce que on oublie par exemple que une entreprise, elle a une vie, quels que soient ses actionnaires. On pense souvent aux entreprises. Bon, il y a des étrange. Voilà. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on aura le temps de se le dire.
Merci, merci beaucoup, à Philippe Alcaraz. Déjà, je suis ravie de vous faire votre connaissance dans ce contexte public. c'est très sympathique. Et puis, merci infiniment de votre engagement. C'est vrai que c'est très impressionnant. Moi, je suis très impressionnée.
Et puis, je suis aussi, hein. Je suis très impressionnée.
J'avais un peu regardé, j'avais été voir sur votre site, effectivement, j'avais vu un certain nombre de choses que vous décrivez.
Il a changé, il a changé récemment, il a changé il y a 3 jours. On a lancé une nouvelle marque visuelle.
D'accord,
on a lancé un nouveau site. Tout a changé il y a
3 jours. D'accord,
on va gérer à vous revoir. Voilà.
J'ai pas regardé à nouveau. Du coup, je vous remercie aussi de ce que vous avez détaillé. Enfin, au début, je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez mentionné concernant votre souci des utilisateurs et utilisatrices, je rajouterais. C'est juste des pistes comme ça, hein, je réfléchis en vous parlant. Mais je me disais que peut-être il y avait aussi quelque chose qui pouvait être intéressant à faire à propos de comment communiquer avec les utilisateurs, comment connaître mieux leurs besoins, de manière qualitative. Et je me disais que peut-être il y avait aussi quelque chose à faire en termes d'entretien, d'explicitation à ce niveau-là.
C'est possible, c'est souhaitable. On a un outil à notre disposition. On a une application que les utilisateurs utilisent, pour avoir des informations par rapport à la qualité de leur Wi-Fi. Mais à ce jour, nous nous sommes interdits de les solliciter. Parce que c'est très délicat de solliciter. On peut le dire. Que pensez-vous de la qualité de votre Wi-Fi aujourd'hui? Arrête de poser la question 3 fois. Ou alors, nous avons noté que votre Internet peut être amélioré, et là on le met en mode panique parce qu'en fait il pensait qu'il était bon, ou l'inverse. Donc on ne peut pas s'improviser dans une relation avec... Néanmoins, c'est notre devoir de le faire parce que moi, ma vision, c'est que l'intelligence artificielle peut au contraire humaniser les rapports. Aujourd'hui, quand on est un utilisateur et que le Wi-Fi ne marche pas, on appelle un call center qui va se retrouver, je ne sais pas, au Madagascar d'ailleurs, puis les personnes en face sont bien des humains, ils vont suivre un script qui est bien moins intelligent d'ailleurs que certains algorithmes d'intelligence artificielle. Et la réalité, c'est que ça crée un stress encore plus fort. On en a des preuves selon lesquelles la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est d'appeler un call center. Donc, je pense, qu'il y a des choses qui peuvent permettre d'amener un progrès dans le sens du plus humain grâce à de la technique, mais en la mettant à sa place.
Oui, tout à fait. En tout cas, je pense que c'est un projet magnifique et je suis ravie de pouvoir en être. Et j'espère qu'on pourra répondre à certaines de vos attentes et des questions qui sont suscitées. Effectivement, formuler comme vous l'avez fait en termes de faire des propositions, des directions, ouvrir des perspectives, ça, je pense que dans un premier temps, c'est des choses qui peuvent émerger au bout de... dans un timing relativement... pas très lointain. S'il faut faire des choses plus finalisées, ça demande plus de temps, évidemment.
Ça s'inscrit dans un projet à très long terme, pour nous, hein, notamment avec l'université de Galatasaray, avec l'intervention d'étudiants, de doctorants, on s'intéresse aussi à un moment donné d'embaucher des personnes. Donc, il s'agit bien du début d'une piste, ou du début de plusieurs pistes. Donc, je vous rassure sur mes attentes, puisque je dis mes attentes, parce que le reste de mes équipes n'est quasiment pas au courant de ce que je fais, étant mieux acteur. Mais ils le seront bien bientôt. Nous avons plusieurs personnes dans nos équipes. On a à peu près 200 ingénieurs, et on a certains qui ont des doctorats en intelligence artificielle, notamment en Belgique. On a un centre de recherche qui est à Anvers, où il y a plusieurs personnes qui sont assez pointues en intelligence artificielle. Mais on est en train de parler de pistes.
Très bien.
Tout le monde à l'aise, il s'agit de recherche. Ce que c'est que la recherche. On parle de recherche déjà.
Tout à fait. Mais, en tout cas, le projet m'apparaît de plus en plus à la fois extrêmement, je vais dire comme ça, pour moi, extrêmement ambitieux. Je parle pour moi parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai tout à découvrir et tout à apprendre, d'une certaine façon. Et en même temps, extrêmement, comment dire, régénérant, je dirais, y compris pour la philosophie. Donc, vous voyez, moi, j'y trouve mon compte aussi. Hein.
C'est l'objectif, hein, parce qu'on doit aussi s'amuser.
Oui, tout à fait. Ça, j'ai bien compris, en fait. J'ai bien compris qu'il y avait un enjeu très fort à ce niveau-là, et ça me plaît aussi.
Donc, tout le monde est d'accord que le jeu est un élément, hein, l'aspect ludique, et y compris le leurre, est un élément très important. Merci beaucoup Philippe Alcaraz, merci beaucoup Nathalie Deprin. C'est très frustrant pour Türker Armaner, Henrich, Umut, Susumu. En fait, ce que je fais à leur place, parce que vous avez compris, on a des problèmes techniques, mais ce que je fais à leur place, c'est de déclarer du coup cette chaire d'excellence de l'Université Galatasaray, portée par la société Arthaïs, Philippe Alcaraz, mais aussi l'ambassade de France, et avec Nathalie Deprat comme titulaire de chaire, cette chaire est désormais ouverte, et ce sera le rôle de Türker Armaner effectivement de fédérer toutes les ressources utiles pour le bon déroulement de ce programme, à la fois ambitieux et prometteur. Donc voilà. Je propose, si vous le voulez bien, que l'on s'arrête là et que, en tout cas, Türker reprenne prochainement la main pour piloter le développement de la chaire en votre compagnie.
Très bien. Merci beaucoup.
Voilà.
Merci Philippe. Merci Francis.
Oui, Nathalie. On pourra d'ailleurs s'appeler séparément pour discuter. Parce que je voulais faire avant et... J'ai pas réussi à le faire.
Oui, non, mais voilà. Pas de souci. Moi-même, j'ai beaucoup de. Voilà, j'ai été aussi pas mal débordée. Donc, mais on va trouver moyen de se parler directement, bien sûr. Tout à fait.
Très bien. Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Il est pratiquement 19h à Istanbul. Je pense qu'il est 2h de moins à Paris ou à Rouen. Je ne sais pas où tu es, Nathalie. Tu es à Paris, voilà. Donc, le soleil ne s'est pas encore couché à Paris, peut-être ici. Il fait nuit. Donc, à bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt.
Merci beaucoup pour cette très belle après-midi soirée. Et à très bientôt.
Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci infiniment.